Très heureux de vous retrouver dans notre partie d'Occitanie. Il est midi, le sommaire pour cette nouvelle heure avec l'interview de ce matin d'Isabelle Honnel. Elle est avec Françoise Laborde, sénatrice de Haute-Garonne. C'est dans 3 minutes. Tout savoir sur l'agenda avec Emmanuel Pellat dans son émission Église Actualité. C'est dans 20 minutes. Nous irons dans la ville rose pour faire le tour des diocèses dans la deuxième partie de l'heure. Votre chronique Air du temps avec la question: pourquoi parler anglais aux Français? Ça, c'est en fin d'heure. Mais juste avant, les titres avec Luc Vidal-Giraud dans l'ex-région Midi-Pyrénées.
Les 100 membres de la Convention citoyenne pour l'Occitanie se réunissent aujourd'hui même à Montpellier pour leur seconde session de travail. Pour mémoire, la région a décidé de lancer cette convention citoyenne afin de permettre aux habitants de prendre pleinement part à la construction des politiques qui seront mises en œuvre dans les mois et les années qui viennent en Occitanie. Du retard à l'allumage pour toute une série de grands projets portés par Toulouse Métropole. L'annonce en a été faite par Jean-Luc Moudin hier en marge d'une visite du nouveau parc des expositions de la Ville Rose. Jean-Luc Moudin a évoqué entre autres le projet de troisième ligne de métro et le projet Grand Matabiau quai dock autour de la gare Matabiau. Le procureur de Saint-Gaudens a ouvert hier une information judiciaire après la disparition d'une jeune fille de 12 ans scolarisée au collège de Montréjou en Haute-Garonne. La collégienne est introuvable depuis 4 jours. L'Agence régionale de santé a rendu son bilan hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus en Occitanie. Elle a fait 14 nouvelles victimes dans notre région, dont 4 en Haute-Garonne, une dans le Gers et une dans le Tarn-et-Garonne. La région au chevet de Lourdes, le tourisme et l'aide aux entreprises seront au cœur du déplacement de Carole Delga à Lourdes demain jeudi. La présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée rencontrera Thierry Lavitte, le maire de la cité mariale. Carole Delga devrait également visiter le sanctuaire de Lourdes aux côtés de Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur du sanctuaire. La formation politique La France Insoumise a réclamé hier à l'Assemblée la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les sites de stockage de nitrate d'ammonium en France. Cette substance chimique est associée aux explosions meurtrières d'AZF à Toulouse, c'était en 2001, et de Beyrouth en août dernier. C'est l'heure de la rentrée pour l'orchestre de Pau, pays de Béarn. Contraint au silence depuis maintenant plus de 6 mois, la formation entame dès ce mercredi une série de 5 concerts au Palais Beaumont et un dimanche prochain en l'église de Menin.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour un autre point sur l'actualité.
La météo.
L'après-midi des éclaircies avec 24 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie. Profitez-en demain matin, là encore de rares averses. 16 tout près de la piste de karting à Cahors, 17 à Vic-Fezensac et Montauban. Là où il y aura le soleil qui pointera le bout de son nez, ce sera en Haute-Pyrénées et à Lourdes pour l'après-midi. Des risques de pluie partout dans l'Occitanie. Ça va faire du bien au Jardin des Fleurs à Toulouse où le mercure n'ira pas plus haut que à 20 degrés ainsi que dans le Gers. 19 pour le Tarn-et-Garonne dans le Lot et en Haute-Pyrénées.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Les élections sénatoriales ont lieu dimanche 27 septembre prochain. Alors pas de panique, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'information. Les sénateurs, faut-il le rappeler, ce sont les grands électeurs qui les élisent. D'où peut-être notre image lointaine de ces sénateurs qu'on a vite fait d'imaginer en vieux barons, baillant sous les ors de la République. Alors ce matin, su aux caricatures, c'est une femme qui incarne la fonction. Bonjour Françoise Laborde.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes sénatrice de Haute-Garonne, candidate à votre succession ce dimanche. Vous vous présentez à la tête d'une liste divers centres. Vous êtes membre du mouvement radical. Et donc, à travers vous, nous allons découvrir ce qu'est la vie d'un sénateur, d'une sénatrice, en l'occurrence. Quelles sont vos missions? Comment est-ce que vous partagez votre temps entre Paris et votre territoire? Je vous voyais hocher la tête sur cette caricature. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle est juste ou elle n'est pas juste?
Elle n'est plus juste, on va dire. Ça a beaucoup évolué, car les sénatoriales qui sont passées de 9 ans à 6 ans en 2008, puis avec un renouvellement quand même tous les 3 ans sur une partie du territoire, c'est pour ça qu'en Haute-Garonne, cette fois-ci, je suis en plein renouvellement, Il y a eu quand même donc une évolution, plus de femmes, nous sommes loin de la moitié, nous sommes
un tiers voilà. De femmes.
Mais cette évolution est quand même très nette.
348 sénateurs en France, 119 femmes, 229 hommes, environnement quand même très masculin, un profil type, un homme âgé en moyenne de 61 ans. Est-ce que vous diriez, vous êtes d'accord avec l'idée qu'ils sont un peu mal aimés, en tout cas lointains les sénateurs, on les connaît mal?
Alors, c'est pas mal aimé, voilà, c'est lointain. En fait, on ne les connaît mal à cause du suffrage universel indirect.
Et voilà, ce sont les grands électeurs qui sont constitués en partie de conseillers municipaux et de maires. Hein.
Voilà, tout à fait.
Alors, justement, on va rappeler à ceux qui nous écoutent ce qui va se passer ce dimanche. C'est une partie du corps des sénateurs qui va être renouvelée. Vous êtes 8, je crois, sur les rangs en Haute-Garonne.
Alors, il y a 8 listes, puisque ce sont des listes.
Voilà, 8 listes pour pourvoir 5 sièges, 86 listes sur les 9 départements d'Occitanie concernés par ce renouvellement. Françoise Laborde, on dit souvent que les municipales sont la répétition générale des sénatoriales. À ce compte-là, est-ce que vous pensez que la gauche a une chance de renverser la vapeur et de prendre la majorité au Sénat qui aujourd'hui est à droite et de longue date, hein.
Alors je ne pense pas que ce soit possible encore cette fois-ci, parce qu'il y a aussi plutôt des Verts qui vont peut-être revenir au Sénat. Jusqu'en 2017, nous avions un groupe Vert et en 2017, les sénateurs verts n'étaient plus que 5, donc plus possible de faire un groupe. Je pense que cette fois-ci, avec la prise, je dirais, des grandes villes, ils ont sûrement des chances de reformer un groupe au Sénat. Mais quant à renverser la vapeur, ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait, moins d'une campagne tonitruante. D'ailleurs, ça ressemble à quoi, une campagne de sénatoriale pour vous? Vous êtes arrivé en me disant « ouf ». Fatigue.
C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, on va à la rencontre des maires. Donc, vous avez en Haute-Garonne 586 communes.
Ah oui,
donc, je ne suis pas retournée voir les 586, puisque bon, j'ai la prétention de connaître un petit peu mon territoire. Mais sur les 586, il y a quand même 110 nouveaux maires.
Ah oui.
Donc, rien que cela, il faut aller les voir, ce qui est normal. Et puis, comme je suis une femme, je vais voir aussi toutes les femmes maires, même si elles ont été réélues, parce que je les affectionne. Étant vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, je trouve que je leur dois bien cela. Et après, il y a des rendez-vous, je dirais, un petit peu plus collectifs, où les anciens maires sont invités, car il ne faudrait pas qu'ils croient que je ne les aime plus.
Ah ben non, surtout pas. Et donc votre boulot, hein, c'est de, évidemment, comme toute élection, les convaincre que vous êtes la meilleure. Alors, on va se concentrer sur vous, sur votre parcours, si vous voulez bien, Françoise Laborde. Vous avez été élue la première fois en 2008. Vous aviez fatalement plus de 24 ans, parce que c'est la règle, hein, pour être éligible comme sénateur. C'est le troisième mandat que vous briguez, on peut donc imaginer que la fonction ne vous a pas épuisé. Pour quelles raisons et comment, surtout, hein, vous êtes devenue sénatrice? Vous étiez institutrice, je crois, au départ. Hein.
Tout à fait, j'étais institutrice, directrice d'école. Mais c'est vrai que je dois beaucoup à deux... Vous savez ce qu'on appelle l'alignement des planètes.
Ouais.
2008, ça a été mon année, je vais dire, puisque ça a été l'obligation de la parité sur les listes sénatoriales. Et une alliance entre certains partis politiques m'ont permis d'être élue sénatrice. Et j'ai continué mon chemin. Et comme vous dites, j'aime ça. Donc je me suis représentée dans les mêmes conditions en 2014. Et cette fois-ci, pour un troisième mandat, il me semble que j'ai ma légitimité en tête de liste. Nous avons le droit de faire 3 mandats. Je vous promets, je ne reviendrai pas en 2026.
Et être une femme quota? Ça vous convient? Ça convient à la vice-présidente de la délégation aux droits des femmes?
Ça ne me convient pas, mais bon, comme on dit un peu trivialement, je ne vais pas cracher dans la soupe.
Ouais.
J'ai été élue sur des municipales hors quota, parce que le maire avait apprécié mes qualités. Je me suis dit à un moment, où on y va, et on met son orgueil dans sa poche, et tant pis pour le quota, où on n'y va pas. Et c'est pour ça que aussi je me représente en tête de liste, parce que je me dis cette fois-ci, c'est hors quota. et on verra.
Et c'est sur ma pomme, si
voilà,
je puis me permettre.
Tout à fait.
Si je puis me permettre. Alors oui, je ne l'ai pas dit, vous étiez conseiller aussi municipal à Blagnac. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette fonction de sénateur au point de briguer donc ce troisième mandat? Qu'est-ce qui vous anime?
Alors c'est la diversité des missions. C'est vrai qu'il y a le purement législatif qui n'est pas le plus amusant, on va dire, puisque même si j'ai une spécialité dans le cadre de mes compétences, donc je dirais culture et éducation, donc mon appartenance à la commission culture et éducation, puisque on est obligatoirement dans une commission, mais on vote tout le reste. Donc il faut quand même bien s'intéresser à tout le reste. Et ça, parfois, ce n'est pas toujours évident. Par contre, il y a des missions qui sont spécifiques et qui sont passionnantes. J'ai beaucoup travaillé sur le rôle du directeur d'école, sur les violences conjugales et familiales. Je pense que on peut arriver petit à petit à changer les choses. Et c'est pour ça que je persiste.
Changer les choses, changer le monde, apporter sa pierre, c'est ça qui vous motive, c'est ça qui fait que vous avez envie d'être sur la liste, la tête de liste, et puis être élu dimanche prochain?
C'est tout à fait ça. Je pense que quand on est élu, on aime les gens. Ou alors, il vaut mieux rester chez soi. Et donc sur ce terrain-là, moi j'ai beaucoup de plaisir aux rencontres, aux échanges qui font qu'on se dit « Ah ben oui, avec toutes ces personnes, toutes leurs idées, on va arriver à faire changer le monde. Sinon, oui, on resterait chez soi. »
Et alors, je suis allée regarder sur le site du Sénat, hein, depuis que vous êtes sénatrice, donc en 2008, vous auriez posé, vous allez me dire, hein, 203 questions en séance, sur des sujets aussi divers que, je vais en donner trois, hein, les risques pour la santé liés au terrain de sport synthétique, laïcité et totalitarisme islamiste, l'aéroport Toulouse-Blagnac. Évidemment, il n'y a pas tellement de lien entre toutes ces questions. Comment est-ce qu'on est spécialiste d'autant de thèmes? Est-ce que c'est vous qui choisissez les thèmes? Comment ça se passe?
Alors, c'est moi qui choisis.
Emmenez-nous, s'il vous
thèmes.
Plaît, au Palais du Luxembourg.
Alors, je vous y emmène. Donc, comme je vous disais, il y a le travail de la commission. Il y a les fils rouges. Donc, comme vous avez compris, pour moi, les fils rouges, ce sont les lois de la République et la laïcité. Car je pense que, même si ça fait, comme je dis de temps en temps, un peu tarte à la crème, il me semble que nous devons appliquer les lois de la République avant toute autre idée farfelue.
Ce que vous appelez fil rouge, c'est les sujets qui vous sont chers. Hein,
voilà. Mm-hmm. Et ensuite, cela dépend du territoire. Vous comprenez bien qu'habitant Blagnac, l'aéroport me concerne, il vous concerne tous, il nous concerne tous, surtout en ce moment avec la crise et la filière aéronautique qui va mal. Mais à l'époque, c'est vrai que l'aéroport et les Chinois, ça m'embêtait un petit peu. Voilà, donc ça a été un sujet. Les terrains de sport, ça a été un sujet aussi, parce que beaucoup de maires sont revenus vers moi, puisqu'en fait, on porte leurs questions et leurs soucis, en me disant, on entend parler de ces terrains synthétiques, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? On a tous mis ça parce qu'on pensait que c'était mieux. Mais et alors, puis on se retrouve devant un mur.
Et sans entrer dans le détail de ces thématiques, comment est-ce qu'elles, c'est vous qui les choisissez? C'est vos goûts personnels qui vous portent vers une thématique plus qu'une autre? La commission, vous avez dit, on est obligatoirement dans une commission. Elle vous est attribuée, cette commission? C'est vous qui la choisissez? Comment ça se passe?
Alors j'ai eu la chance de pouvoir la choisir.
C'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que je pense que quand vous arrivez, selon la taille des groupes, on vous dit, voilà ce qui reste.
Ah, d'accord.
Comme moi, j'appartiens à un petit groupe, nous sommes 24 et nous avons été seulement 17, 18. Enfin, donc, il y a un vrai travail, de mise, on est dans le bain tout de suite. Et on s'accroche parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de permanence. Mais du coup, ça vous laisse le choix un peu plus de travailler sur les sujets qui sont les vôtres.
Les vôtres. Et alors, vous me dites, on appartient à une seule commission, par contre, on vote toutes les lois. Et alors, on vote toutes les lois, les yeux fermés, qu'on ne connaît pas?
Et non, c'est justement ça, le plaisir d'être dans un petit groupe qui est un peu moins partisan que d'autres. Donc, tous les mercredis matins au Sénat, il n'y a pas de séance, puisqu'on a la réunion obligatoire des commissions. Par contre, les mardis matins, il n'y a pas de séance non plus, ce sont les groupes politiques qui se réunissent. Et c'est lors du travail et des rencontres et des échanges des mardis matins qu'avec nos collègues qui ont, eux, travaillé un autre sujet dans leur commission...
Ah, on fait un échange de savoir et de...
Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que dans mon groupe, on ne vote jamais, pratiquement jamais, les 24 de la même façon. Parce que ce n'est pas un petit coup de fil du haut, c'est vraiment en fonction de notre territoire.
Alors le groupe, vous allez me redonner son nom, hein,
RDSE, Rassemblement démocratique social européen.
Donc l'année dernière, entre 2019 et 2020, pendant la session parlementaire, vous auriez passé 627 heures en séance. Les sénateurs ont adopté 56 textes de loi. Quelle prise est-ce que vous avez avec le terrain ? Donc on l'a compris, vous êtes élu au suffrage indirect, vous n'avez pas de permanence avec les citoyens. C'est quoi votre prise avec le terrain, Françoise Laborde ?
Alors on a une permanence où l'on reçoit les syndicats.
Ah
oui, parce que quand il y a un texte sur les transports, vous imaginez bien que RATP, TCO et autres défilent. Quand il y a un texte sur les professions paramédicales, je vois l'ordre des sages-femmes, l'ordre des kinés, etc. Donc ça, c'est la partie où l'on reçoit à la permanence. Ici en Haute-Garonne, voilà. Et la partie plus législative en ce qui concerne les collectivités, je vais à la rencontre des maires. Et donc, je vais dans leur commune où on organise des échanges en fonction de leur sujet ou des miens, puisque s'il arrive un texte qui les concerne vraiment, il faut vraiment que ce soit eux qui me donnent leur avis.
Et c'est ça, je crois, qui vous distingue finalement d'un député. Vous êtes, c'est l'article 24 de la Constitution de la Ve République qui le stipule, vous assurez la représentation des collectivités territoriales.
Tout à fait, parce qu'un député... étant élu au suffrage universel direct, il est aussi bien élu par les élus que par les citoyens. Donc sa vision des choses est plus généraliste. C'est pas péjoratif, c'est plus généraliste. Nous, dans la mesure où ce sont les élus, nous nous occupons du ressenti des élus. Mais leur ressenti, c'est leur future application sur les collectivités des textes. Et quelquefois, c'est vrai que la petite patte des sénateurs permet de modifier des textes qui seraient inapplicables par nos chers élus et on ne pourrait plus aller dans leur commune là, parce qu'on serait très très mal reçus.
Très mal reçus, surtout qu'ils ont été pas mal chahutés, les élus, par cette mandature.
Tout à fait.
Cette mandature présidentielle. Comment est-ce que vous organisez votre temps entre Paris et la Haute-Garonne, Françoise Laborde ?
Le plus classique, c'est départ le mardi matin, justement pour être à cette fameuse réunion du mardi matin.
Transfert de savoir.
Voilà. Et retour souvent le jeudi soir. Après, il y a des textes qui durent plus longtemps, style budget de la sécurité sociale, budget de l'État. Donc là, c'est du lundi au vendredi, voire samedi. Mais sinon, c'est à peu près ça. Lundi, vendredi, samedi. Quelquefois, j'essaye de me garder le samedi après-midi et le dimanche quand on n'est pas en campagne, pour aller voir justement les élus ou être à ma permanence.
Alors le sujet qui vous est cher, vous nous l'avez dit, c'est la délégation. Vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Ça sera ma dernière question. C'est quoi la mesure, la loi que vous avez fait passer, en tout cas que vous avez encouragée, dont vous êtes le plus fier?
Alors il y a plusieurs textes bien sûr, mais depuis 2008, je me suis toujours attachée à tout ce qui concerne les violences conjugales, les violences familiales, tout ce qui concerne la pédocriminalité aussi. Et c'est vrai que régulièrement, quand il y a un texte sur la justice, j'essaye de passer des amendements qui améliorent les conditions des femmes en général, et en particulier de celles qui sont maltraitées, même si je rajoute toujours que je peux entendre aussi que certains hommes sont maltraités.
Merci beaucoup Françoise Laborde. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur le rôle d'un sénateur. Je rappelle que vous figurez parmi les 86 candidats des 9 départements d'Occitanie concernés par le renouvellement des sénateurs. Vous êtes à la tête d'une liste Divers-Centre, membre du mouvement radical. Les élections ont lieu ce dimanche 27 septembre. Merci de votre visite.
Merci à vous et bonne journée.
Nous continuons cette pause repas avec de la musique et le groupe Deluxe formé en 2007 qui résonne dans notre partie d'Occitanie. Et dans moins de 5 minutes, vous aurez votre agenda avec Emmanuel Pellas sur votre radio chrétienne. Il est actuellement midi 18.
Somebody smart once spoke and said, don't put into your mouth what you picked up from the floor. Yeah, but keep stumbling in the weirdest scenes. Warnings sure did ignore it. Sniffing the carpet floor. Treasures lost in gold, real deep leftover body crowns. Cat hair, blueberry gown. Someday the worms will find this board and mature right to the core. Give me my due and more.
To die long when you feel we've gone. We'll be right back.
public for all to know how close they're to the bone. Blue as the skies, they just seem to fall whenever Badoosy pours, blooming some metaphors. Future costs more than what's left of us as long gain a birth, like Theodoric the First. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before crumbling under the board.
To die long when you feel we've gone beneath.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Église Actualité, Emmanuel Pellat.
Ce jeudi 24 septembre, à Lourdes, les Veilleurs de Bigorre organisent pour rappel la conférence de Michel Chiron sur le thème « Spiritisme, possession et miséricorde ». Michel Chiron est l'auteur de « J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable » paru aux éditions Arthège. Rendez-vous ce jeudi à 20h30 à la salle Saint-Pierre à Lourdes. Ce vendredi 25 septembre à Sylvanès, pour rappel également, l'association Millefeuille et l'abbaye de Sylvanès proposent l'événement « Forêt en fête », un carrefour d'échanges scientifiques, ludiques et artistiques ouvert au grand public, selon les mots des organisateurs, sur le thème de l'environnement forestier. Pour tout renseignement, un site internet www.sylvanès.com. Ce vendredi 25 septembre également, à Toulouse, la communauté Vie Chrétienne CVX de Haute-Garonne-Ariège organise une soirée d'information appelée Open CVX sur le thème « Venez et voyez » pour les jeunes et les moins jeunes, selon les mots des organisateurs. CVX est un mouvement de spiritualité jésuite, pour rappel, à destination des laïcs. Rendez-vous ce vendredi 19h30 à la paroisse du Sacré-Cœur à Toulouse. Ce samedi 26 septembre à Gramma, le grand couvent de Gramma propose un week-end sur le thème « Prière et quiconque ». Une proposition originale mêlant tant de prières chrétiennes et pratiques de cette gymnastique traditionnelle chinoise qui est aussi une science de la respiration. Rendez-vous ce samedi dès 9h30 au grand couvent de Gramma. Pour tout renseignement, un site internet www.cahors.catholique.fr. Enfin, ce samedi 26 septembre également à Calmont, le diocèse de Rodez propose de venir participer à une journée du septembre marial. Depuis 2019, une maison du sanctuaire a été ouverte afin d'accueillir les pèlerins et les visiteurs de cette basilique mineure en ce lieu de pèlerinage marial situé dans l'Aveyron. Au programme de cette journée mariale, temps de prière, moments conviviaux et conférences sur le thème « Les saints fondateurs de notre diocèse, des saints pour aujourd'hui ?» point d'interrogation. Rendez-vous ce samedi dès 10h à la basilique Notre-Dame de Seignac à Calmont.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec Luc Vidal-Giraud, notre journaliste de Radio Présence Lourdes.
Bonjour à tous. Les 100 membres de la Convention citoyenne pour l'Occitanie se réunissent aujourd'hui même à Montpellier pour leur seconde session de travail. Pour mémoire, la région a décidé de lancer cette convention citoyenne afin de permettre aux habitants de prendre pleinement part à la construction des politiques qui seront mises en œuvre dans les mois et les années qui viennent en Occitanie. Lors de cette deuxième session, les membres de la convention seront amenés à approfondir les pistes de réflexion issues de leur première session de travail et à formaliser leur projet de réponse au mandat qui leur a été confié et qui se résume de la façon suivante. Quelles attentes et quelles mesures concrètes pour transformer la région Occitanie? Nous y reviendrons tout au long de la semaine. Du retard à l'allumage pour toute une série de grands projets portés par Toulouse Métropole. L'annonce en a été faite par Jean-Luc Moudin qui, hier, en marge d'une visite du nouveau parc des expositions de la Ville Rose. La métropole n'abandonne pas ses projets, nous n'abandonnons pas nos niveaux d'ambition, mais tout est décalé, a expliqué Jean-Luc Moudin, évoquant entre autres le projet de troisième ligne de métro dont le dossier d'enquête publique environnementale sera ouvert en fin d'année. Sont également concernés le projet Grand Matabio au Quai d'Oc autour de la gare Matabio. Le calendrier du chantier va être revu. La zone d'activité prévue autour du nouveau parc des expositions entre Ossonne, Beauzelle et Blagnac, avec notamment deux hôtels, voit également son agenda perturbé. Le procureur de Saint-Gaudens a ouvert hier une information judiciaire après la disparition d'une jeune fille de 12 ans scolarisée au collège de Montrégeau en Haute-Garonne. La collégienne est introuvable depuis 4 jours. Lévidia Lazare a disparu depuis le 17 septembre après sa sortie du collège. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins, fait du porte-à-porte, mené des recherches par hélicoptère avec une brigade cynophile. Mais à ce jour, les recherches sont restées vaines. J'ai demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante et la saisine d'un juge d'instruction afin de donner un nouveau cadre juridique et un nouvel élan pour engager tous les moyens possibles pour la retrouver, a indiqué le procureur. L'Agence régionale de santé a rendu son bilan hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus en Occitanie. Elle a fait 14 nouvelles victimes dans notre région, dont 4 en Haute-Garonne, une dans le Gers et une dans le Tarn-et-Garonne. Depuis le début de la crise sanitaire, le coronavirus a fait 572 morts en Occitanie dans les établissements de santé. Côté hospitalisation, elles sont également en hausse à hauteur de 319, dont 87 personnes placées actuellement en réanimation. 9 départements d'Occitanie sont classés en zone rouge, synonyme de zone de circulation active du virus. Seuls 4 départements y échappent, le Lot, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Lozère. Toujours à propos de cette crise sanitaire, au lendemain de l'identification d'un foyer épidémique au Covid-19 au sein de l'EHPAD de résidence Gustave Pedoya à la Bastide de Sérou en Ariège, les 67 résidents et 70 salariés de l'établissement ont été testés hier. Les résultats devraient être connus au cours de la journée. L'état de santé des 3 résidents qui avaient été testés positifs ne nécessite pas d'hospitalisation. L'établissement, lui, reste fermé à toute visite jusqu'à nouvel ordre. La région au chevet de Lourdes, le tourisme et l'aide aux entreprises seront au cœur du déplacement de Carole Delga à Lourdes demain, jeudi. La présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée rencontrera Thierry Lhabitte, le maire de la cité mariale, pour une réunion de travail autour du plan Lourdes. Ce plan de relance spécifique doit permettre de venir en aide à l'économie locale fortement impactée par la crise sanitaire. Le plan prévoit la mobilisation de soutien spécifique aux entreprises touristiques, au commerce et à l'artisanat, aux projets d'investissement public de la commune ainsi que ceux du sanctuaire. Carole Delga devrait également rencontrer des commerçants au cours d'une déambulation dans le centre-ville. La journée se terminera par la visite du sanctuaire aux côtés de Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur du sanctuaire de Lourdes. Si le marché des avions est actuellement dans la tourmente, celui des trains, métros et tramways semble mieux se porter. En témoigne la bonne santé du groupe espagnol CAF, qui possède une usine à Bagnères-de-Bigorre. Il vient d'engranger toute une série d'importantes commandes, notamment dans la rénovation de plus d'une quarantaine de rames de la ligne A du RER parisien. Sont également prévues la construction d'une trentaine de trains intercités. La société dit avoir un carnet de commandes qui lui assure déjà 18 mois de travail. Elle pourrait créer à court terme près de 250 emplois. Le site de Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées compte lui une centaine de salariés. La formation politique La France Insoumise a réclamé hier à l'Assemblée la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les sites de stockage de nitrate d'ammonium en France. Cette substance chimique est associée aux explosions meurtrières d'AZF à Toulouse en 2001 et de Beyrouth en août dernier. La législation européenne a été renforcée, notamment pour le stockage de ces nitrates d'ammonium, désormais encadrés par la directive Seveso 3. Le ministère de la Transition écologique recense, lui, 16 entrepôts Seveso O, c'est-à-dire de plus de 2500 tonnes pour les ammonitrates les plus courants, et 35 sites Seveso bas à partir de 350 tonnes de nitrate d'ammonium. C'est l'heure de la rentrée pour l'orchestre de Pau, Pays de Béarn. Contraint au silence depuis maintenant plus de 6 mois, la formation entame dès ce mercredi une série de 5 concerts au Palais Beaumont et un dimanche prochain en l'église de Monin. Il a fallu repenser l'organisation de l'auditorium Alfred de Vigny en raison des contraintes sanitaires, et elles sont de taille en ce qui concerne un orchestre. Figurez-vous que pour les instruments avant, que sont flûte, hautbois, clarinette, cor et autres trompettes, une fiche sanitaire du ministère de la Culture demande une distanciation radiale de 2 mètres entre chaque musicien. Conséquence, eh bien, il faut rogner sur la place accordée au public en supprimant les premiers rangs. La capacité d'accueil est ainsi réduite d'un tiers. Coup d'envoi donc dès ce mercredi avec à 20h au Palais Beaumont le concerto pour piano numéro 2 de Prokofiev, interprété par Alexandre Kantorov, ainsi que la symphonie pathétique de Tchaïkovski.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
L'après-midi des éclaircies avec 24 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie. Profitez-en, demain matin, là encore de rares averses. 16 tout près de la piste de karting à Cahors, 17 à Vic-Fezensac et Montauban, là où il y aura le soleil qui pointera le bout de son nez. Ce sera en Haute-Pyrénées et à Lourdes pour l'après-midi, des risques de pluie partout dans l'Occitanie. Ça va faire du bien au Jardin des Fleurs, à Toulouse, où le mercure n'ira pas plus haut que à 20 degrés, ainsi que dans le Gers, 19 pour le Tarn-et-Garonne dans le Lot et en Haute-Pyrénées. C'est l'heure de faire le tour des diocèses à Toulouse où vous nous écoutez sur le 97.9, peut-être en voiture pour rentrer chez vous et déjeuner en famille. Bon appétit en avance.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Dans le diocèse de Toulouse ce matin, on va tout de suite y retrouver Capucine Malville. Elle est déléguée épiscopale à l'information, directrice de la communication. Bonjour Capucine.
Bonjour Isabelle.
Comment allez-vous ce matin Capucine?
Eh bien écoutez, ça va bien.
On entend.
Ça fait du bien, enfin, ça va pas durer.
Il fait frais, ça fait du bien. Vous avez raison. Alors on va tout de suite droit au but. Qu'est-ce qu'on note dans notre programme de la quinzaine pour le diocèse de Toulouse?
Écoutez Isabelle, on note à venir les 2 et 3 octobre un week-end d'action de grâce à l'occasion du départ des frères de Sainte-Marie-du-Désert. Alors Sainte-Marie-du-Désert, c'est quand même un lieu qui est très connu dans le diocèse. Nombreux sont depuis 168 ans les chrétiens de Haute-Garonne et d'ailleurs qui s'y sont rendus. Donc l'histoire est ancienne, hein, puisque dès le XIe siècle, il y avait un petit lieu de pèlerinage. Au XIXe siècle, on a créé... on a reconstruit une chapelle sur une chapelle détruite. Elle sera appelée rapidement chapelle Sainte-Marie-du-Désert. Et puis en 1852, c'est une fondation de l'abbaye Notre-Dame d'Aiguebel qui envoie quelques frères fonder l'abbaye du désert. L'année suivante, ils enverront encore d'autres frères. Et à une période faste, il y a eu jusqu'à 60 moines à Sainte-Marie-du-Désert. Malheureusement, depuis les années 90, commence un déclin. Les frères ne sont plus que 36. Ce chiffre décroît d'année en année. Et à ce jour, ils ne sont plus que 8, âgés de 57 à 100 ans. Alors en 2006, ils ont pris conscience qu'avec une si petite communauté, ils peinaient, ils se fatiguaient à gérer l'ensemble du domaine. Il y a quand même 10 000 mètres carrés de bâtiments. Ils ont cherché des solutions d'union avec d'autres communautés qui n'ont pas débouché. Alors, ils ont voté de façon unanime leur départ. Pourtant, en 168 ans, vraiment, les frères, ce sont des frères cisterciens. Alors, ils ont façonné l'environnement, ils ont réalisé des routes, ils ont introduit des moissonneuses-batteuses, ils ont participé à la vie locale. Hier, une dame me racontait que pendant la dernière guerre mondiale, son grand-père officier s'est caché à la trappe Sainte-Marie-du-Désert pendant 5 mois. Il a retrouvé un professeur juif connu, d'autres personnes du milieu toulousain. Bref, en 1944, pendant la guerre, ceux qui se cachaient là-bas partageaient les travaux agricoles des moines, qui avaient aussi des moutons et des daims. Et puis nombreux sont ceux qui nous racontent des temps de retraite des temps de paix, des temps d'échange avec ses frères. Donc c'est en même temps une page un petit peu qui se tourne, une page un petit peu douloureuse et en même temps une action de grâce énorme pour tout ce qu'ils nous ont apporté pendant ces 168 ans.
Et alors ces moines bâtisseurs, ces moines qui laissent beaucoup de souvenirs, vous nous le dites, hein, les moines de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, ils quittent le diocèse. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Alors écoutez, ils partent chacun un petit peu de leur côté, comme le droit canon leur permet. Donc ils partent dans 6 lieux différents. Alors le frère Guéric, ça c'est absolument extraordinaire, part en Équateur pour transmettre son expérience monastique de 57 ans à une jeune communauté. Les autres frères partent dans des monastères de tradition cistercienne ou bénédictine en France. Alors nous, on voulait faire un appel à l'aide, parce que voilà, nous voudrions offrir, enfin le diocèse voudrait offrir un livre d'or pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous pendant ces 168 ans. Et nous vous invitons à livrer vos témoignages, alors à envoyer sur communication@diocese-toulouse.org votre visite, vos anecdotes, vos temps de prière et peut-être, pourquoi pas, les miracles que vous avez connus là-bas. Et puis, bien sûr, nous vous invitons les 2 et 3 octobre à un week-end d'action de grâce à Bellegarde-Sainte-Marie avec des vêpres solennelles, une eucharistie présidée par Monseigneur et puis un passage de relais au village de François qui est le projet que les moines ont choisi pour suivre leur présence sur ce lieu. Juste pour mémoire, le village de François, c'est un lieu de vie partagé pour des personnes fragiles, entre des personnes fragiles et leurs accompagnateurs, autour de 3 axes, le vivre ensemble, l'activité économique et l'écologie intégrale. Voilà, donc ils vont prendre, le village de François va prendre à cœur de maintenir de l'activité économique et puis tout simplement aussi la gestion de ces terres qui depuis 168 ans appartenaient aux frères.
Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler du village de François. On salue le fondateur Étienne Villemain, ami de la radio. Et puis je redonne cette adresse, hein, communication@diocese-toulouse.org. pour envoyer vos témoignages que vous allez compiler au diocèse et que vous offrirez aux frères qui quittent l'abbaye. Donc vous leur offrirez le 3 octobre prochain. Mais chut, hein, c'est une surprise. Merci beaucoup, Capucine.
Merci Isabelle. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.
Tout de suite, votre chronique, une différente chaque jour, à retrouver sur le www.radioprésence.com.
L'air du temps avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. Vous avez remarqué, la publicité commerciale française s'adresse de plus en plus souvent à vous, à tout le public français, en langue anglaise, autrement dit américaine. Par exemple, Citroën, sa dernière affiche nous dit que ses voitures sont « inspired by you ». Autres exemples, French Days, smartphone à choper. Choper, s'écrivant S-H-O-P, shop. Ou Kids Around, One Nation, la rentrée a pris Outlet. Ou chaussures JD, Undisputed. Les crèmes glacées lyonnaises de la marque What the French s'appellent Cuba Lover ou Do You Do. En 2019, les cahiers Clairefontaine nous disent September is coming. En 2018, Princesse Tam Tam nous disait Winter is coming. Une autre marque nous annonçait une incredible rentrée. Et comme la publicité commerciale donne aujourd'hui le ton à tout le reste en France, ça influence aussi les associations franco-françaises. Le féminisme, par exemple, en juillet dernier, Me Too, déjà un nom américain, est lancé à Bastia et Ajaccio par des jeunes femmes corses. Elle l'intitule « I was Corsica ». De la part d'une île aussi attachée à sa langue et à toute sa culture, c'est un symptôme révélateur. Et hélas, il faut bien le dire, le monde catholique français n'échappe pas à la contagion. Au contraire, il a un peu l'air de s'y précipiter, comme s'il fallait parler américain ou français pour être pris au sérieux. Un diocèse au nord de la Loire lance une initiative pour faire connaître aux gens la vie quotidienne des prêtres. Bravo ! Mais pourquoi cette initiative est-elle intitulée « Priest Experience » ? Pourquoi la Saint-Vincent-de-Paul intitule-t-elle une campagne caritative « Innovate » ? Pourquoi un réseau spirituel se nomme-t-il « Lights in the Dark » ? Un autre « Light my prayer ». Pourquoi la paroisse du coin appelle-t-elle ses soirées conviviales « Church Party » ? Pourquoi une proposition 2019 de vacances spirituelles s'appelle-t-elle Mission to Paradise. En 2018, une autre s'appelait Holy Beach. Pourquoi un diocèse intitule-t-il la tournée paroissiale de son évêque Bishop Tour? Pourquoi un lycée catholique nomme-t-il un forum Life is Today? Oui, pourquoi parler américain aux Français comme si la langue française était devenue ringarde aux yeux des Français eux-mêmes? C'est l'opposé de l'enracinement et de l'inculturation recommandé par Vatican II et par Laudato Si, et c'est une étrange défaite devant le bulldozer de la mondialisation libérale dont les papes nous ont pourtant dit quoi penser. Réfléchissons-y. À la semaine prochaine.
Radio Présence à Auch 89.6.
Dans 3 minutes sera l'heure de votre évangile de ce mercredi 23 septembre pour patienter la belle voix de Jean Ferrat pour cette pause entre midi et deux.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêté au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Radio Présence à Aix-les-Thermes 92.7.
Très bel après-midi avec les programmes de présence. Merci d'être fidèle à cette heure mariale. À 15h30, nous aurons rendez-vous en direct à la grotte du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour faire vivre la prière du chapelet d'aujourd'hui. Et en ce mercredi, nous méditerons les mystères glorieux de la vie du Christ. Juste avant, vous aurez eu un enseignement par un chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter l'évangile de ce jour et son commentaire qui nous est proposé par le père Anne-Guillaume Vernacht, qui est chapelain au sanctuaire.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Très bien aimé, en venant aujourd'hui en pèlerinage à Lourdes, nous sommes invités évidemment à rendre grâce à Dieu pour cette grâce d'abord que nous avons d'être ici, de pouvoir nous approcher du rocher de Massabielle, même si pour les raisons sanitaires nous ne pouvons pas le toucher, mais quand même nous avons accès à la source, nous avons accès à cette fontaine d'eau vive, et tout cela doit nous aider à rendre grâce pour la proximité, bien précisément, du royaume de Dieu. Tous ces signes qui nous sont donnés ici à Lourdes témoignent pour nous de la proximité du royaume de Dieu, et nous y avons accès. Vous savez, nous l'avons chanté dans le verset de l'Alléluia, « Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Cette proximité de Dieu, cette proximité de Jésus, la proximité de la Vierge Marie, bien sûr, c'est la proximité de l'Évangile qui permet à chacun d'entre nous, pèlerins de Lourdes et tout homme croyant, eh bien de goûter, de vivre de l'Évangile et de recevoir ainsi le salut de Dieu. Quand nous lisons l'Évangile aujourd'hui, par exemple, nous voyons Jésus qui envoie ses apôtres, les 12, tout simplement, les 12. On est au tout commencement de l'Évangile. Il envoie les 12 avec le pouvoir de chasser les démons, pouvoir et autorité sur tous les démons, et même pour faire des guérisons, nous dit l'Évangile, nous dit saint Luc. C'est grandiose de voir la grâce que Jésus, Dieu, que Jésus donne à ses apôtres de pouvoir guérir les corps et les âmes, en chassant tous les démons, en purifiant les cœurs, en nous purifiant de tous nos péchés, en nous libérant de toute mauvaise influence néfaste, et puis en guérissant nos corps, voilà le pouvoir tout-puissant de Dieu qui est livré là entre les mains des 12 apôtres et donc finalement toujours aujourd'hui de l'Église. C'est de cela en effet que nous pouvons témoigner, nous, pèlerins de Lourdes, en venant ici en pèlerinage, eh bien de cette actualité impressionnante quand même de cet évangile. En venant à Lourdes, nous le savons bien, tant et tant de personnes qui peuvent venir à Lourdes être touchées par la grâce et se convertir en effet, à s'attacher définitivement à Jésus et à Marie, être libérées de toute souffrance, de toute épreuve, de toute difficulté, libérées de tout mal, libérées de tout démon aussi. Et puis bien sûr, ces témoignages de guérison que nous avons à Lourdes, tout le temps, même s'il y a peu de pèlerins, il y a toujours des guérisons physiques à Lourdes. Tout ça nous montre eh bien, que Dieu touche du doigt notre humanité, toujours, comme du temps de Jésus. C'est le même évangile, c'est la même espérance que nous avons, c'est la même humanité, rien n'a changé. Mais l'évangile est toujours proclamé, l'espérance est toujours annoncée et nous sommes toujours guéris dans nos corps et libérés dans nos cœurs et dans nos âmes. Le même évangile ainsi se propage jusqu'à nous et nous pouvons donc témoigner particulièrement, pèlerins de Lourdes, eh bien, de cette proximité de Dieu, de cette proximité de la grâce. La source est toujours là et où que nous vivions sur terre, nous avons accès à cette source pour être libérés et même guéris. C'est Dieu qui donne bien sûr la guérison. Nous pouvons donc rendre grâce à Dieu pour cela. Mais en célébrant aussi aujourd'hui la mémoire du saint Padre Pio, nous sommes touchés par cette proximité aussi de Dieu. Le Padre Pio était un profond mystère à lui-même et à nous toujours, à travers toute la souffrance qu'il a vécue. depuis le tout début de sa vie religieuse, le tout début de sa vie sacerdotale, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il a vécu dans sa chair, donc, ce que vivait le Christ lui-même, d'une manière si impressionnante. Alors, nous pouvons être impressionnés, éblouis par cette souffrance, par ce qu'a vécu le Padre Pio. Ce qui doit surtout nous toucher, nous chrétiens, croyants, eh bien, c'est de voir que finalement, cet homme, ce prêtre, ce moine capucin, a épousé dans sa chair le Christ lui-même, un peu comme saint François d'Assise finalement, puis finalement comme tous les saints. Et c'est cela la vie chrétienne. Frère bien-aimé, c'est cela la vie chrétienne. Un chrétien veut reproduire en lui, dans son âme et dans son corps, le Christ, la vie du Christ. Comme le dit saint Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est tout le mystère du Christ donc, qui s'est réalisé de nouveau dans ce Padre Pio. Et pour nous, qui sommes là et qui pouvons célébrer la mémoire de Padre Pio, nous sommes aussi en communion, je pense, à tous les groupes de prière Padre Pio qui sont affiliés à l'archiconfrérie Notre-Dame de Lourdes, qui sont donc attachés d'une manière si singulière au pèlerinage à Lourdes, à toutes les grâces que nous vivons ici à Lourdes. Et en célébrant cette mémoire, nous voyons à quel point le mystère du Christ lui-même est toujours présent au milieu de nous. L'histoire du Christ n'est pas une histoire qui nous projette à 2000 ans auparavant. Le Christ est toujours vivant au milieu de nous et nous voyons par les chrétiens que nous sommes, que nous reproduisons en nous le mystère du Christ, évidemment de manière exceptionnelle et impressionnante avec le Padre Pio, mais toute vie chrétienne rend présent le Christ. Nos peines, nos souffrances, nos joies aussi, bien sûr, le Christ a été profondément marqué par la joie, il a annoncer la joie, le bonheur du royaume, mais toute notre existence humaine épouse finalement le Christ, ou à vrai dire c'est plutôt le Christ qui veut épouser notre existence humaine, jusqu'à pouvoir faire en sorte que tout ce que nous vivons sur terre eh bien, soit mis à disposition pour l'évangile, soit mis à disposition pour le salut de tous les hommes, que notre vie devienne alors un témoignage, c'est encore Jésus qui le dit dans l'évangile. Vous allez proclamer l'évangile, vous allez annoncer la proximité du royaume de Dieu, et c'est tout. On ne s'inquiète pas de savoir si en face le message est reçu, mais le message est annoncé, le message est proclamé. Et bien par notre vie chrétienne, si nous accueillons vraiment le Christ en nous, toute notre existence devient un témoignage de la proximité du royaume, de la proximité de Dieu, de la proximité du Christ à son humanité, encore aujourd'hui, qui chemine sur terre, dans son pèlerinage. Voilà ce que nous pouvons espérer. Je pense que en communiant à cette messe aujourd'hui à la grotte de Lourdes, en communiant au corps du Christ, eh bien, nous pouvons avoir cette espérance que, en effet, notre vie soit vraiment chrétienne, c'est-à-dire du Christ, qu'elle appartienne à Jésus et à personne d'autre, bien sûr, libérée de tout mal. Et puis que, alors, notre vie serve de témoignage au monde entier. L'humanité est encore en pèlerinage sur terre. Elle a un but, vous savez. Il y a une finalité à ce pèlerinage, il y a un terme à ce pèlerinage. Nous ne sommes pas faits pour que l'humanité dure éternellement ici-bas sur terre, et que ça se prolonge et que ça se reproduise jusqu'à rien. Il y a un terme, et ce terme, c'est le Christ. Il était au début, il sera à la fin, il est toujours avec nous à chaque instant. Et bien c'est ça notre espérance que nous pouvons avoir aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie, en communiant au corps du Christ, c'est d'aviver en nous, fermement, cette espérance de voir de nos yeux, de voir le règne de Dieu. Puisque Jésus l'a annoncé, il l'a réalisé même dans sa chair, puisqu'il a envoyé les apôtres annoncer la proximité du royaume, puisque nous-mêmes, par notre existence, et le Padre Pio en est ainsi vivant témoin, nous témoignons cette proximité du royaume, notre espérance, elle est là, frère bien-aimé, de voir de nos yeux l'avènement définitif du royaume. Et c'est pour cela que nous témoignons de notre foi et de notre espérance. C'est pour cela que nous venons en pèlerinage à Lourdes. C'est pour cela que nous allons boire une gorgée d'eau ou allumer un cierge ici à Lourdes. C'est pour cela que, comme nous le pouvons, nous transmettons la foi à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations à venir. Parce que nous avons une espérance. Cette espérance, c'est la proximité immédiate du royaume de Dieu. Amen.
Voilà, à l'instant, vous venez d'entendre l'évangile et son commentaire qui nous était proposé aujourd'hui par le père Anne-Guillaume Vernacht, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Présence à Montrégeau. 94.1.
Dans moins de deux minutes, le rappel des titres dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Mais tout de suite, Louis Chédid avec Un ange passe.
Parfois on traîne sa vie comme une vieille casserole. On passe d'une insomnie à une journée molle. Le travail, les amis, les amours, tout déconne. Pas la moindre éclaircie, vraiment rien qui rigole. Misère de misère, malédiction. Quand tout à coup à l'horizon, un ange passe, et d'un coup d'aile efface nos angoisses et tout reprend sa place. Un ange passe, oh, un ange passe. Chasser le naturel, il revient au galop. On sort du tunnel et la tête hors de l'eau. Les passants dans la rue, les gens dans le métro. Aujourd'hui, qui l'eût cru, tout nous paraît si beau. Plus on tombe bas, plus il est vrai que l'on ne peut que remonter. Un ange passe et d'un coup d'aile efface nos angoisses et tout reprend sa place. Un ange passe et d'un coup d'aile efface nos angoisses et tout reprend sa place. Un ange passe, un ange passe, un ange passe.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Le rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud, il est actuellement 12h57.
Les 100 membres de la Convention citoyenne pour l'Occitanie se réunissent aujourd'hui même à Montpellier pour leur seconde session de travail. Pour mémoire, la région a décidé de lancer cette convention citoyenne afin de permettre aux habitants de prendre pleinement part à la construction des politiques qui seront mises en œuvre dans les mois et les années qui viennent en Occitanie. Du retard à l'allumage pour toute une série de grands projets portés par Toulouse Métropole. L'annonce en a été faite par Jean-Luc Moudin hier en marge d'une visite du nouveau parc des expositions de la Ville Rose. Jean-Luc Moudin a évoqué entre autres le projet de troisième ligne de métro et le projet Grand Matabiau quai Doc autour de la gare Matabiau. Le procureur de Saint-Gaudens a ouvert hier une information judiciaire après la disparition d'une jeune fille de 12 ans scolarisée au collège de Montrégeau en Haute-Garonne. La collégienne est introuvable depuis 4 jours. L'Agence régionale de santé a rendu son bilan hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus en Occitanie. Elle a fait 14 nouvelles victimes dans notre région, dont 4 en Haute-Garonne, une dans le Gers et une dans le Tarn-et-Garonne. La région au chevet de Lourdes, le tourisme et l'aide aux entreprises seront au cœur du déplacement de Carole Delga à Lourdes demain jeudi. La présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée rencontrera Thierry Lavitte, le maire de la cité mariale. Carole Delga devrait également visiter le sanctuaire de Lourdes aux côtés de Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur du sanctuaire. La formation politique La France Insoumise a réclamé hier à l'Assemblée la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les sites de stockage de nitrate d'ammonium en France. Cette substance chimique est associée aux explosions meurtrières d'AZF à Toulouse, c'était en 2001, et de Beyrouth en août dernier. C'est l'heure de la rentrée pour l'orchestre de Pau, pays de Béarn. Contraint au silence depuis maintenant plus de 6 mois, la formation entame dès ce mercredi une série de 5 concerts au Palais Beaumont et un dimanche prochain en l'église de Menin.
Un rapide coup d'œil sur votre météo. L'après-midi, des éclaircies avec 24 degrés en moyenne. Demain matin, de rares averses. 16 à Cahors, 17 à Vic-Fezensac et Montauban. Du soleil en Haute-Pyrénées et à Lourdes pour l'après-midi. Des risques de pluie, ça va faire du bien au Jardin des Plantes à Toulouse. 20 degrés ainsi que dans le Gers. 19 pour le Tarn-et-Garonne, dans le Lot et en Haute-Pyrénées. Radio Vatican arrive et moi je vous dis à demain midi.
Radio Présence à Moissac, 93.3.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Pour sortir de la crise sanitaire, le pape défend la subsidiarité. Il faut remettre au centre ce principe.